Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Vous allez jusqu'à l'Apocalypse et c'est juste avant. C'est l'avant-dernier livre de la Bible. La lettre de Jude, et Dieu voulant, nous commençons une étude qui va nous prendre plusieurs semaines, peut-être même aller jusqu'aux vacances d'été. Jude, il n'y a pas de chapitre en Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, 25 versets. Et nous allons lire ce matin les deux premiers versets. Jude, donc les versets 1 et 2, voici la parole de Dieu. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Et c'est la parole de Dieu. On a parfois décrit cette lettre de Jude comme le livre le plus ignoré du Nouveau Testament, peut-être même de la Bible en entier. Pour certaines personnes, Jude, c'est ce petit livre obscur qui se trouve juste avant l'Apocalypse. Pour d'autres, Jude contient essentiellement cette merveilleuse bénédiction que nous avons à la fin dans les versets 24 et 25, qui nous arrive parfois de lire, ici même, à la fin de nos cultes. Et pour d'autres encore, Jude se résume à cet appel au verset 3 que nous verrons, Dieu voulant, la prochaine fois, cet appel à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Mais j'espère qu'au travers de cette étude, au travers dans les prochaines semaines, nous allons voir combien ce petit livre est très utile pour les chrétiens qui vivent dans des temps difficiles, et nous compris, au XXIe siècle. On verra aussi qu'il y a des raisons qui sont plausibles, qui pourraient expliquer pourquoi ce livre est parfois considéré comme étant obscur. Il y a déjà la petite taille, comme j'ai dit, il n'y a que 25 versets dans ce livre. Il y a aussi la perception, à tort, d'un ton de malheur, de polémique. Il y a aussi dans cette lettre des références, des citations d'une littérature juive qui ne fait pas partie du canon biblique, une littérature avec laquelle nous ne sommes pas familiers. Et puis, il y a cette relation unique entre Jude et la deuxième lettre de Pierre. En fait, sur les 25 versets de Jude, 15 ressemblent beaucoup aux versets que l'on trouve en 2 Pierre chapitre 2. Les experts ont depuis longtemps constaté cette ressemblance et ils avancent trois explications. Ils disent soit que Jude a utilisé 2 Pierre 2 quand il a écrit sa lettre, soit c'est l'inverse, que c'est Pierre qui a utilisé Jude quand il a écrit sa lettre, ou alors les deux, Jude et Pierre, s'appuyaient sur une source existante, soit une source écrite, soit une source orale, qu'ils ont adaptée. Mais la plupart des experts sont d'accord pour dire que Jude a écrit sa lettre en premier, et que c'est Pierre qui a adapté le contenu de Jude quand il a écrit 2 Pierre chapitre 2 en laissant de côté certaines choses et en adaptant d'autres pour son besoin. Mais bon, on a un de ces domaines où on doit faire preuve d'humilité intellectuelle. Beaucoup d'encre a coulé à ce sujet, mais un commentateur résume la chose en disant « Le fait même que les arguments des uns et des autres apparaissent à leurs défenseurs avec la même force probante » semble montrer que nous n'arriverons jamais à une conclusion. Les contenus de Jude et de 2 Pierre 2 sont très proches, mais ils ne sont jamais identiques dans le langage qui est utilisé. Jude a écrit dans un but qui est bien précis. Pierre a écrit dans un but qui est bien précis et dans un contexte particulier. Mais le problème entre les deux est aussi lié à la date à laquelle Jude a été écrite. On sait que Pierre a été mis à mort vers la fin des années 60 de notre ère. Cela veut dire que si Jude a utilisé le matériel de Pierre, il aurait très bien pu l'utiliser entre les années 40 et 80 du premier siècle. Mais si c'est Pierre qui a utilisé le matériel de Jude, alors la rédaction de cette lettre est beaucoup plus tôt. Jude a dû écrire sa lettre avant le milieu des années 60, avant que Pierre ne soit mis à mort. Et il y a beaucoup de témoignages en faveur de cette date jeune de l'écriture de cette lettre de Jude et de son inclusion dans le canon des Écritures. Un des pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, les dates, c'est environ 150 à 210 de notre ère. Il a écrit un commentaire sur le livre de Jude. Un autre père de l'Église, Origène, c'est les dates 185 à 254, écrit dans son commentaire sur l'évangile de Matthieu que Jude fait partie de l'Écriture sainte. Il dit « Jude, de son côté, a écrit une épître qui ne compte que quelques versets, mais qui est remplie de paroles efficaces de la grâce céleste. » Ça, c'est Origène. Le livre de Jude a connu une grande diffusion très tôt. Et les questions sur sa place dans l'Écriture, dans le canon de l'Écriture, ne sont apparues que bien plus tard dans l'histoire, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de son utilisation de matériel qui ne fait pas partie du canon des Écritures. Quand on parle du canon des Écritures, on parle de l'ensemble des livres qui forment la Bible. Canon veut dire la règle. Et donc, l'Église primitive avait cette règle pour décider quel livre faisait partie de l'Écriture, bien sûr, conduit par l'Esprit de Dieu. On verra cela un peu plus tard. Jude est une lettre, mais elle a été écrite sous la forme d'un sermon, parce que d'habitude, les lettres ne se terminent pas avec la bénédiction que nous avons à la fin de cette lettre. Et la forme de Jude ressemble beaucoup à la forme d'une prédication, d'une exposition biblique, telle que l'on pouvait trouver dans l'Église primitive où les croyants étaient d'origine juive. Les lettres, un peu comme aujourd'hui, commençaient traditionnellement par la formule de l'auteur au destinataire. Mais Jude n'est pas une lettre comme les autres et son introduction n'est pas une simple formalité. Il y a beaucoup de choses à retirer de cette introduction quand on s'arrête sur les détails. Et c'est vrai pour Jude, mais c'est aussi vrai pour toutes les lettres que nous avons dans le Nouveau Testament. N'oublions pas que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ces paroles, même les paroles d'introduction comme le reste de sa lettre. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons nous attarder sur cette introduction. La première chose que nous voulons voir, le premier point tout d'abord, c'est l'auteur lui-même. Qui est Jude? Jude se décrit comme le frère de Jacques. Et en faisant la référence à son frère de cette façon, Jude suppose que ses lecteurs vont immédiatement reconnaître celui à qui il fait référence. Jacques, c'est l'auteur de l'épître qui porte son nom, qui se trouve juste un petit peu avant. C'est celui qui a pris très tôt des responsabilités dans l'Église primitive. On le retrouve par exemple en Actes chapitre 15. Il est le modérateur du premier concile de l'Église à Jérusalem. Et les lecteurs de cette lettre, les chrétiens d'origine juive, allaient pouvoir reconnaître cette référence sans que Jude n'ait besoin de donner plus de détails. Jacques, ah oui, Jacques, on le connaît. Ah, mais voici son frère. Jude, frère de Jacques. Un commentateur écrit « Il n'y a qu'un seul responsable de l'Église primitive qui a été communément appelé simplement Jacques, sans qu'on ait besoin de plus d'identification. Et il n'y a que deux frères appelés Jacques et Jude, ou Judas parfois, qui sont connus dans le Nouveau Testament. Jude utilise donc cette phrase pour s'identifier par rapport à son frère plus connu. » Et cela souligne, dès le départ, l'humilité de Jude. Il fait référence à son frère plus connu. Et son humilité devient encore plus apparente quand on se rappelle que Jacques et Jude avaient un frère qui était plus connu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils étaient les frères du Seigneur Jésus. Il faisait partie de sa famille humaine. Et cette expression « frère du Seigneur » allait devenir une expression très importante dans l'Église primitive. Elle est même utilisée dans le Nouveau Testament. Un commentateur écrit « Leur lien de sang entre Jude et Jacques avec Jésus les plaçait dans une catégorie spéciale aux yeux des premiers chrétiens. Et ils préféraient un titre qui indiquait cette catégorie spéciale plutôt que de les inclure dans la catégorie générale des apôtres. Ils faisaient part, Jacques et Jude font part d'une catégorie à part. Et pourtant, Jude ne s'identifie pas selon cette catégorie spéciale. Jude ne dit pas « frère du Seigneur Jésus-Christ ». La description de lui-même qu'il n'utilise pas, donc à savoir « frère du Seigneur », nous dit beaucoup de choses au sujet de Jude et de son humilité. Nous aurions tendance à faire autrement. L'Église primitive a fait autrement en les appelant Jacques et Jude, les frères du Seigneur. Mais au lieu de cela, Jude se décrit simplement comme un serviteur de Jésus-Christ. Ce mot serviteur, vous savez, peut aussi se traduire par esclave. Et voilà le frère du Seigneur selon la chair, qui se décrit comme esclave, comme serviteur de Jésus-Christ. C'est de cette façon que Jude veut qu'on se rappelle de lui. C'est de cette façon que Jude se voyait lui-même. C'était sa description préférée, serviteur de Jésus-Christ. Cette confusion témoigne d'une profondeur théologique, d'un zèle pastoral aussi, d'une fidélité, d'une adoration profonde venant de quelqu'un qui n'était pas si longtemps un incroyant, un sceptique. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 3 à 5, on lit ceci, ses frères lui dirent, parlant à Jésus, lui dit, « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres, les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui, ne croyaient pas en Jésus. » Et donc, le fait, rien que l'existence de cette lettre, telle que nous l'avons ici dans nos Bibles, est un merveilleux témoignage à l'œuvre de grâce que Dieu peut accomplir. Un commentateur écrit « Quel changement par rapport au jour avant la résurrection où ses frères ne le croyaient pas, mais pensaient qu'il était dérangé. Maintenant qu'il était devenu croyant, le but de Jude dans la vie était d'être totalement à la disposition du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. » Et ce n'était pas un service triste, ennuyeux pour le Seigneur. Ce n'est pas l'esclavage comme on pourrait le penser et qu'on pourrait le penser aujourd'hui quand on utilise ce terme. C'est une volonté, c'est un plaisir, c'est un désir d'appartenance, un désir de service envers ce maître qui a payé le prix du rachat, envers celui qui lui était humainement très proche, mais qui lui était aussi son sauveur personnel. Charles Spurgeon dit ceci, « Ils n'étaient pas des serviteurs qui pouvaient aller et venir à leur guise, mais ils étaient des serviteurs de Jésus-Christ. Bien qu'il n'y ait pas d'hommes libres sur terre plus vraiment libres qu'eux, pourtant ces serviteurs de Jésus-Christ se réjouissaient de porter des chaînes d'amour qui étaient plus douces que la soie, plus fortes que l'acier. Ils se réjouissaient de sentir qu'ils n'avaient aucune liberté de fuir Christ. Leur désir était d'avoir leur oreille percée à la porte de sa maison, d'être ses serviteurs toute leur vie, jusque dans l'éternité. » Jude, un homme plein d'humilité. Mais cette expression « serviteur de Jésus-Christ » souligne aussi autre chose. Et ce n'est pas une expression qui est inconnue de ses lecteurs, et je ne pense pas qu'il soit inconnu de nous. C'est une description qui est aussi utilisée dans l'Ancien Testament. C'était une manière de désigner un responsable, un homme clé, quelqu'un d'important. Ce terme a été utilisé pour Moïse, pour Josué, pour David. Et bien sûr, de manière ultime, il a été utilisé pour décrire la venue du serviteur de l'Éternel, à savoir du Seigneur Jésus-Christ. On retrouve cela dans les chants du serviteur, en Ésaïe par exemple. C'était pour décrire quelqu'un qui avait un rôle d'influence, un rôle de leadership, bon terme français, dans le service pour Dieu. Et dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé par l'apôtre Paul, par d'autres, et donc par Jude, comme une de leurs façons remplies d'humilité pour désigner l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ leur a donnée et avec laquelle ils écrivent ces paroles. Voilà Jude, donc, un homme qui est plein d'humilité, mais qui est investi de cette autorité que le Seigneur lui donne pour écrire cette lettre. Voilà l'auteur. Deuxième grand point, l'audience, les destinataires de cette lettre. On n'a pas d'informations, et même d'informations extra-bibliques, pour déterminer la nature exacte des destinataires de cette lettre de Jude. Contrairement à Paul, par exemple, quand Paul écrit ses lettres, il écrit à l'église d'Éphèse, il écrit à l'église qui est à Philippe, etc. Il précise exactement à qui il écrit. Jude ne s'adresse pas à une église en particulier ou à un ensemble d'églises dans une région. Mais ce qui est important, ce qui est plus important pour nous, c'est de voir que les destinataires de cette lettre sont décrits dans la deuxième partie du verset 1. La raison de cette lettre, on le verra un peu plus tard, c'était la présence de faux enseignants qui faisaient la promotion, en particulier de l'antinomianisme, être ennemi de la loi. Mais avant d'arriver à cette question, Jude veut affermir ses lecteurs dans la compréhension de qui ils sont, afin qu'ils soient sûrs de leur identité en Christ. Dans toute sa lettre, Jude va faire cette distinction entre ceux à qui il s'adresse, il va s'adresser à eux, à vous, mes bien-aimés, et les autres, les impies, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La première caractéristique de ses lecteurs, à ceux qui sont appelés, ou qui ont été appelés. L'origine de cette expression, bien entendu, remonte à l'Ancien Testament. Ce n'est pas un concept inconnu, et ce n'est pas un concept qui était inconnu de la part des lecteurs de Jude. On remonte jusqu'à Abraham, pour voir que c'est Dieu qui a appelé Abraham, qui a appelé son peuple à l'existence. C'est lui qui a appelé Abraham à quitter sa culture païenne. Et Dieu a ensuite appelé un peuple pour lui-même. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Que les lecteurs de Jude font partie de ceux qui ont été appelés. Il y a beaucoup de malentendus dans le monde évangélique aujourd'hui à propos de cette expression. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'éduquer un chien dans votre vie, mais parfois, vous pouvez être conscient de l'inefficacité de votre appel. Vous appelez votre chien jusqu'à ne plus avoir de souffle et le chien vous ignore. Ou au mieux, il tourne la tête, il vous regarde avec un regard vide en ne sachant pas ce qu'il doit faire. Et beaucoup de personnes dans le monde évangélique considèrent l'appel de Dieu comme étant quelque chose qui ressemble à cela. Pour ces personnes, Dieu va inviter, il va essayer d'amadouer le pécheur, mais il ne peut pas, il ne va pas le contraindre à venir. Mais ce n'est pas ce que Jude et ce que la Bible dit quand il parle du peuple de Dieu qui a été appelé. Non, l'appel de Dieu est un appel qui est efficace. Faire partie de ceux qui ont été appelés de Dieu, c'est faire partie de ceux dont le cœur a été percé, dont le cœur a été capturé par l'Évangile. Rappelez-vous, Lazare, mort depuis 4 jours, incapable de faire quoi que ce soit, n'ayant aucune volonté, il est mort. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'appelle, Lazare sort. Parce que l'appel est efficace. L'appel de l'Évangile, l'appel de Jésus-Christ, l'appel de Dieu est efficace. Et un commentateur écrit, ce mot reflète la conviction du Nouveau Testament qu'être chrétien est le produit de la grâce de Dieu qui vient chercher des pécheurs sans force pour les amener dans une relation avec lui-même. Pour Jude, l'accent n'est pas tellement sur le croyant, sur celui qui répond à l'appel, mais plutôt sur Dieu qui, de façon souveraine, appelle des pécheurs à lui. Et tout au long de cette lettre, Jude ne va cesser de s'appuyer sur la souveraineté de Dieu. Le lecteur de Jude n'est jamais censé penser qu'il a en quelque sorte contribué à son propre salut à cause de sa réponse à l'Évangile. Non. Il est sauvé parce que Dieu l'a appelé en Christ. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais nous faisons partie de ceux qui avons été choisis, appelés par Dieu. Et il nous a été impossible de ne pas répondre à cet appel, comme Lazare ne pouvait pas rester dans sa tombe. Mais il est sorti. Ceux qui ont été appelés. La deuxième caractéristique, les lecteurs, ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Voilà la raison de l'appel de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé de manière efficace les croyants? Ce n'est pas à cause de nos mérites. Ce n'est pas à cause de quelque chose que nous avons fait, mais c'est à cause de son amour pour nous. Paul écrit en Éphésiens 1, verset 5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Cette expression, aimer en Dieu le Père, est un terme grec qui n'est pas facile à traduire par un seul mot en français. Il faut une expression en français pour le traduire. Parce que dans le grec, c'est un participe passé qui exprime quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais qui a des effets continus et permanents. Dieu ne nous a pas simplement aimés dans le passé. Jude écrit pour que ses lecteurs sachent que non seulement Dieu les a aimés dans le passé, mais qu'il continue de les aimer et qu'il continuera jusque dans l'éternité. C'est l'amour de Dieu qui se tient derrière, en dessous, à travers son choix souverain dans l'appel efficace de chacun de ses enfants. Mais notez que les lecteurs de Jude et ceux à qui Jude s'adresse sont décrits comme étant aimés en Dieu le Père. C'est une façon un peu inhabituelle pour décrire l'amour de Dieu pour son peuple. Cela veut dire qu'ils sont aimés, non seulement qu'ils sont aimés de Dieu, mais que l'amour de Dieu les entoure. Le résultat d'avoir été appelés, c'est qu'ils sont en communion avec Dieu et que dans cette communion, ils font l'expérience de son amour. L'amour de Dieu, c'est quelque chose dans lequel nous sommes. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est dirigé vers nous, mais c'est quelque chose qui nous enveloppe. Et dans les moments difficiles de la vie, quand nous sommes tentés de nous laisser aller, à nous apitoyer sur notre sort, à penser que personne ne nous aime, Jude veut nous rappeler que nous sommes aimés en Dieu, le Père. Un commentateur dit ceci. Peut-être cela pourrait être représenté par un enfant qui est pris dans les bras d'un père et qui fait l'expérience de l'amour du père pendant qu'il ou elle reste là, dans les bras de son père. C'est un amour qui n'a pas de commencement, un amour qui continue aujourd'hui, un amour qui n'a pas de fin, un amour qui est toujours présent. Nous sommes enveloppés dans l'amour de Dieu le Père. C'est notre description si nous connaissons Dieu, si nous avons été réconciliés avec lui par la foi en Jésus-Christ. La troisième caractéristique de ce peuple, de ses lecteurs, c'est qu'ils sont gardés pour Jésus-Christ. Nous avons été appelés parce que nous avons été aimés en Dieu le Père et nous sommes encore aimés de lui aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut espérer arriver à la fin? La réponse, c'est que c'est Dieu qui est celui qui garde, qui protège, qui maintient, qui préserve le peuple qu'il a appelé et le peuple qu'il aime. On peut être préoccupé par beaucoup de choses, mais pas par celle-ci. Dieu garde son peuple. C'est une réalité. Et l'expression elle-même, qui sont gardés, implique encore une fois l'idée de quelque chose qui est continu, de permanent. C'est l'état de la situation actuellement. Nous sommes gardés en sécurité. Ces lecteurs n'ont pas seulement été l'objet de l'amour de Dieu et de sa protection à un moment dans le passé, mais ils le sont maintenant. Et ils continueront à l'être, d'être aimés, d'être gardés par lui pour toujours. Et Jude précise, pour Jésus-Christ, c'est-à-dire pour le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Un commentateur écrit, « Être gardé pour Jésus-Christ signifie que Dieu, tout au long de cette vie, exerce sa puissance en faveur des chrétiens pour les préserver spirituellement intacts jusqu'à la venue de Jésus-Christ dans la gloire. » Et encore une fois, notez que ce verbe est dans la forme passive. L'auteur de cette protection, ce n'est pas nous, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas nous qui nous gardons, c'est le Père, Dieu le Père, qui nous garde pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit lui-même en Jean 6, verset 39, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés et que je les ressuscite au dernier jour. » Jean 10, verset 27 à 29, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et dans sa prière sacerdotale, Jean 17, verset 11, le Seigneur Jésus-Christ a prié, « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » La manière dont Jude a construit la deuxième partie de ce verset 1 en grec est encore une fois difficile à traduire en français. Dans notre version française, on a essentiellement une liste de trois choses, appeler, aimer, garder. Mais en réalité, Jude comprime cela dans une déclaration qui est très riche, très nourrissante. Littéralement, si on voulait traduire littéralement, ça donnerait quelque chose comme ceci. À ceux qui sont les bien-aimés en Dieu le Père et gardés pour le Seigneur Jésus-Christ, appelés une fois. Cette déclaration, si vous voulez, c'est comme un menu tout compris. Parfois, c'est bon de retourner dans la cuisine pour voir les différents éléments qui composent le menu. Mais c'est seulement pour mieux apprécier le menu complet, dans son ensemble. Et c'est ce que Jude désire pour ses lecteurs. Il veut que nous soyons nourris par ces grandes vérités, que nous les comprenions individuellement, mais que nous savourions aussi le menu dans son ensemble pour prendre conscience toujours plus de cette nouvelle identité qui est la nôtre en Jésus-Christ. Avant de parler de combattre pour la foi, avant de parler des dangers qui guettent les croyants, les dangers que représentent les faux enseignements et les faux docteurs, Jude nous rappelle le fondement de l'identité du croyant. Ça commence dans l'éternité passée, ça regarde vers l'avenir, vers l'éternité à venir, et Jude nous rappelle qu'au présent, Dieu garde son peuple pour cette espérance glorieuse. Au centre, bien sûr, il y a l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et Jude va répéter cette réalité à la fin, dans sa doxologie, quand il va commencer en disant « À celui qui peut vous préserver, à celui qui peut vous garder. » Non seulement le peuple de Dieu est préservé, mais son héritage est préservé, comme Pierre le dira dans sa première lettre. Ce langage nous donne aussi une chronologie de cette vie très brève dans ce monde. Il y a le passé, le fait que Dieu nous a aimés en Christ et il nous a appelés. Il y a le présent, le fait que Dieu nous garde, il nous aime, le futur, que Dieu nous garde, il garde son peuple pour le jour du retour de Christ dans la gloire. Mais c'est aussi un langage avec une chronologie biblique. On retrouve ces termes « aimer »,« appeler », »,« garder » dans les chants du serviteur, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, dans ses chants du serviteur, parle bien sûr du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est en lui, c'est par lui, c'est pour lui que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Et les lecteurs de cette lettre, ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ, sont les bénéficiaires de l'amour éternel, de l'appel efficace, de la protection certaine dans le cadre de l'alliance de grâce entre Dieu le Père et le Fils. Ceux à qui Jude s'adresse font partie du peuple de l'alliance de Dieu. Et nous le sommes si nous appartenons à Christ. Et donc, avant de revêtir les armes pour aller au combat avec Jude contre les faux docteurs, contre les faux enseignements, contre l'impiété, contre notre propre chair, contre le monde, dans des moments difficiles, dans des moments incertains, nous ne devons pas regarder à nous-mêmes pour trouver les réponses, pour trouver la force, mais réaliser qui nous sommes en Christ, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous au présent, ce qu'il continue de faire, ce qu'il fera pour nous jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Appeler, aimer, garder. Cela nous amène au troisième point, la demande de Jude, sa prière. Jude conclut sa lettre d'une façon normale. Après avoir mis auteur et destinataire, normalement, on ajoutait les bons vœux dans l'introduction de sa lettre. Mais dans le Nouveau Testament, la forme de salutation normale prend un rôle plus important. Et on peut l'appeler comme un souhait de prière confiant. Comme si Jude disait « Voici ce que je demande au Seigneur pour vous. » Et je suis confiant qu'il vous l'accordera. La première chose que Jude souhaite pour ses lecteurs, c'est que la miséricorde de Dieu leur soit multipliée. La miséricorde dans le Nouveau Testament, c'est cet amour inébranlable de Dieu dans le cadre de l'alliance de grâce. Cela se décrit en particulier cette grâce dans le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons besoin de cette miséricorde. Nous avons besoin de cette miséricorde tous les jours. Nous sommes encore pécheurs, nous chutons. Nous sommes pécheurs même si nous avons été libérés par le Seigneur Jésus-Christ de l'esclavage au péché, de la condamnation du péché. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin, comme cette image lorsque le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples, nous avons besoin que nos pieds soient lavés de la poussière de ce monde que nous ramassons, ce monde dans lequel nous marchons. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour subvenir à nos besoins, pour nous soutenir au milieu des épreuves, pour nous fortifier jour après jour. Mais nous pouvons nous réjouir dans le fait que Dieu se prend plaisir à la miséricorde. La deuxième chose que Jude souhaite, c'est que la paix leur soit multipliée. Cette paix, c'est la réconciliation avec Dieu. Pour nous qui, par nature, étions les enfants de colère, comme les autres. Mais par sa grâce, Dieu nous a justifiés, nous a déclarés, nous a reconnus justes en Christ. Et nous avons donc la paix. Dieu n'est plus en colère contre nous. Pour les lecteurs d'origine juive, ils comprenaient une idée encore plus globale. Celle du mot « shalom » qui comprend l'idée de bien-être, d'épanouissement. Alors, le commentateur dit, dans l'Ancien Testament, le terme de paix communiquait l'état de plénitude, d'intégralité, quand Dieu accomplissait ses promesses. Celui qui connaît une paix parfaite avec Dieu, qui connaît une paix parfaite avec sa propre conscience, qui est en paix avec les autres, qui cultive la paix par son attitude et son comportement. C'est un homme, une femme, qui est fort au milieu de l'agitation, de la tourmente. C'est l'homme qui tiendra bon quand les autres trembleront. Parce qu'il peut dire, comme le psalmiste dans le psaume 57, verset 8, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » La paix. Mais la troisième chose que Jude demande, c'est que l'amour leur soit multiplié. Cet amour inclut d'abord le sens de l'amour de Dieu versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Une réalisation que Dieu nous aime avec cet amour éternel qui ne connaît aucune mesure, aucun changement, aucune fin. Mais cela inclut aussi l'amour pour les hommes, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour compatissant qui est représenté dans la parabole du Samaritain. Cet amour qui ne dit pas simplement « soyez réchauffés, soyez nourris », mais qui se révèle être réel par des actes de charité, par des actes de bonté, en particulier envers nos frères et sœurs en Christ. Mais encore une fois, le lecteur doit prendre les trois éléments ensemble. C'est un menu tout compris. Un commentateur écrit « La miséricorde de la part de Dieu, la paix dans le cœur et l'amour pour les autres, le tout dans la mesure la plus complète. Peut-on imaginer une prière plus complète pour une salutation chrétienne ?» Et Jude dit au verset 2 que la miséricorde, la paix, l'amour vous soient multipliés. Il ne dit pas simplement vous soient ajoutés, mais vous soient multipliés. D'habitude, dans la salutation, dans le grec, il n'y a pas de verbe. On disait simplement la paix avec vous. Mais Jude utilise un verbe de façon explicite pour intensifier son souhait. C'est la triple bénédiction, miséricorde, paix, amour, qui est ensuite multipliée de façon exponentielle. Jude désire que ces bénédictions débordent dans la vie de ses lecteurs. N'oublions pas que ces croyants avaient besoin de cela. Ils vivaient, comme nous allons le voir, dans une situation qui était dangereuse, à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église. Et encore une fois, notez que ce verbe est dans la forme passive, soulignant que c'est Dieu qui fait la multiplication, ce n'est pas le croyant. C'est Dieu qui pourvoira ses grâces dans la vie du croyant, c'est lui qui les multipliera. Et n'est-ce pas notre cas ? Nous avons besoin de connaître davantage la miséricorde de Dieu, de connaître son amour inébranlable dans le salut, dans le cadre de son alliance de grâce. N'est-ce pas notre cas ? Nous avons besoin de connaître davantage la paix avec Dieu, de connaître l'épanouissement, de savoir que Dieu n'est plus irrité contre nous, de pouvoir nous reposer dans cette réalité que nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et n'est-ce pas notre cas ? Nous avons besoin de connaître encore plus l'amour de Dieu pour nous, afin qu'en retour, nous l'aimions davantage et que nous aimions aussi les prochains encore plus. Ce sont des choses que toute âme désire profondément. Ce sont les choses que Dieu multipliera. Jude prie pour cela et il sait que Dieu répondra. Et pour terminer, les implications. Il y a deux implications. Pourquoi Jude a-t-il demandé que ces choses soient multipliées ? La première implication, c'est que le croyant possède déjà ces choses, dans une certaine mesure. On ne peut pas multiplier quelque chose qu'on n'a pas. Les lecteurs de Jude ont déjà fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, de la paix avec Dieu, de l'amour de Dieu. C'est vrai pour chaque croyant, nous avons déjà une expérience de cela. de l'amour de Dieu, de sa miséricorde et de sa paix, alors que nous ne les méritions pas, alors que nous étions des enfants de colère comme les autres. C'est déjà une réalité pour ceux qui sont en Christ. Mais cela amène à la deuxième application, c'est que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin que ces grâces soient multipliées. On ne peut pas se contenter de rester là où nous sommes aujourd'hui. Un chrétien ne peut pas se contenter de rester là où il est lorsqu'il est né de nouveau. Tout comme un bébé ne va pas rester bébé. Il va grandir. Notre expérience de connaître, de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, de la paix qu'il donne, de son amour, de sa protection, notre compréhension de la profondeur de cette miséricorde que nous avons reçue, ce n'est pas simplement une case que l'on va cocher. Allez, c'est fait. Non, au contraire, c'est un océan. Ces choses ont besoin d'être multipliées. L'introduction de Jude, même si elle est normale, selon la formule de l'époque, elle est bien plus que simplement normale. Jude, ce serviteur humble, zélé, veut que ses lecteurs sachent où se trouve leur espérance, afin qu'ils vivent pour Dieu dans ce monde. Comment Jude pouvait-il faire de telles hypothèses concernant ses lecteurs? Comment Jude pouvait-il faire une telle demande avec une telle confiance à Dieu? Parce que Jude savait qu'il écrivait lui-même comme quelqu'un qui a été appelé. Il savait qu'il était lui-même bien-aimé dans le Père. Il savait qu'il était lui-même gardé pour Jésus-Christ. On a dit au début que Jude, pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, était incrédule. On a lu Jean 7, verset 5. Ses frères, les frères de Jésus, ne croyaient plus en lui, ne croyaient non plus en lui. Cela met en évidence le simple fait que d'être dans la présence de Jésus-Christ ne sauve pas. Jude avait Jésus comme modèle. Il l'entendait, il le voyait, mais le simple fait d'être dans sa présence ne sauve pas. Être assis à un culte ne transforme pas une personne incrédule en chrétien. Faire partie d'une famille chrétienne ne fait pas automatiquement de cette personne un chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui est héréditaire. Un commentateur, J.C. Ryle, écrit cela au sujet des frères de Jésus, en particulier au sujet de Jude et de ses frères. Il dit « Voir les miracles de Christ, entendre l'enseignement de Christ, vivre en compagnie de Christ, ces choses ne suffisent pas à faire des hommes des croyants. La simple possession de privilèges spirituels n'a jamais fait de quelqu'un un chrétien. » Et par la grâce de Dieu, Jude a été amené à connaître le Seigneur Jésus-Christ, non pas seulement comme son frère, mais comme son Seigneur, comme son Sauveur. On lit dans le début, dans le premier chapitre du livre des Actes, verset 14, quand les croyants étaient dans la chambre haute, qu'ils attendaient la venue de l'Esprit-Saint qui avait été promis. On lit ceci, « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Jude est passé d'incrédule, de moqueur, à quelqu'un qui avait confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui allait jouer un rôle important dans l'Église primitive, quelqu'un qui allait écrire cette lettre, même pour notre bénéfice, 2000 ans plus tard. Et la façon dont Jude décrit les croyants à qui il s'adresse, c'est la façon dont il se voit lui-même. C'est par grâce qu'il a été sauvé, qu'il a été appelé. C'est par le moyen de la foi, c'est un don de Dieu. Jude ne pouvait pas s'enorgueillir. Il savait qu'il n'y était pour rien dans son appel. Dans le fait d'être bien-aimé dans le Père, d'être gardé pour Jésus-Christ. Il savait qu'il n'y était pour rien pour accomplir le maintien dans la foi, encore moins d'être à l'origine de sa foi. Jude s'est rappelé qu'il avait été moqueur, qu'il avait été incrédule, mais Dieu lui a fait grâce. Il a été sauvé Il a été secouru. Jude savait. Il avait été appelé de manière efficace des ténèbres à la lumière par celui pour qui il dédie toute sa vie, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, il dirige ses lecteurs à eux aussi regarder à Jésus-Christ, à regarder à celui qui sauve, qui est capable de garder ceux qui croient en lui, qui sera fidèle en les gardant jusqu'à la fin. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous faisons partie de ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ? Dans son exposition sur ce passage, Charles Spurgeon termine ainsi, et ce sera ma conclusion. Combien je souhaite sincèrement que chaque personne ici présente, qui ne peut être décrite comme gardée pour Jésus-Christ, puisse désirer qu'il en fût ainsi avec lui, et qu'avant qu'il aille se coucher ce soir, il prie pour qu'il appartienne à Christ. Alors, se livrant à Christ par la foi, il peut, même cette nuit, connaître cette douce paix dont je viens de parler. Qu'il en soit ainsi avec vous tous, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.